RFI. La danse des mots. Yvan Amar.
Bonjour, troisième danse des mots consacrée à la langue corse avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Troisième émission qui s'intéresse plus spécialement à la culture, une culture évidemment portée par la langue. Une langue en même temps portée par la culture, même si ça peut paraître paradoxal, c'est vrai, parce que cette langue, un peu en perte de vitesse, a été réactivée par sa culture. Donc on a rencontré, par exemple, un écrivain, prix Goncourt il y a quelques années, Jérôme Ferrari, qui nous a dit qu'il s'était intéressé à la langue corse par le biais, par exemple, du chant, des polyphonies. Ces polyphonies qui ont glorifié une culture qui se ternissait un petit peu, mais c'est vrai que en marge des revendications nationalistes, ce chant profond qui renoue avec un passé parfois mythique, a su séduire toute une génération. Et cette musique, ces polyphonies, eh bien, elle a ses héros et ses princes. On a été les rencontrer. Dans le nord de l'île, près de l'île Rousse, on est à Loumiou, un village magnifique, accroché à la montagne. On voit la mer, une maison aux trois quarts cachée par des lauriers roses et les six chanteurs de Afileta qui nous accueillent avec une hospitalité tout à la fois frugale et généreuse. Olives, fromage, figues. On ouvre les micros. Ils chantent.
C'est boyou. Chi viene in combattu di un tempo d'aiolo un chi raspassato pianto e rano a se santi. Quasi un peto non spento dopo stadi stragi da uaia chi macelo pare chi fono impiccati ci verrà uno zitello l'andu tutto sfarà gilla.
Arvileta, ça signifie la fougère, tout simplement. La fougère, nous avions choisi ce nom parce que la fougère est une, au-delà du fait que c'est une plante que l'on trouve beaucoup ici, comme partout ailleurs, c'est une plante qui a la particularité d'être enracinée de telle manière qu'elle est difficile à extraire. Elle a des racines qui sont horizontales et pas verticales. Et donc, quand vous voulez l'arracher de la terre, c'est très compliqué. Voilà, donc c'était un symbole d'attachement à notre terre d'origine. Ce qui, évidemment, encore une fois, ne signifie pas fermeture sur le reste du monde. Loin de là, au contraire. Lorsque le groupe s'est créé, c'était à la fin des années 70. À la fin des années 70, il y avait prise de conscience ici. Je dirais qu'effectivement, il y avait des pans entiers de notre tradition orale qui étaient en train de se perdre. Bon, il y avait une tradition orale qui n'était plus pratiquée que par une toute petite partie de la population, dans des zones enclavées, des gens âgés, etc. Et donc, en fait, la première des démarches a consisté à se réapproprier ce patrimoine qui était en déclin, en quelque sorte, l'objectif premier, c'était de se dire sauvegardons ce qui peut l'être encore. Voilà, donc c'était évidemment la raison première de la création de tous les groupes de la première génération, les Cantobologours, Yamayalesi, Tawanya, Imouvri, Ninu, qui sont les groupes de la première génération. Ça a été notre désir premier, notre préoccupation première. Donc, là-dessus, eh bien, on a tous commencé, je dirais, tous ces groupes-là, avec des répertoires qui étaient le même répertoire, puisqu'on essayait d'aller à la source, on essayait d'apprendre ces chants auprès de personnes âgées qui détenaient toujours ce savoir. Il faut savoir qu'en Corse, il y a des répertoires. On a toujours eu un double répertoire, répertoire profane et répertoire sacré. Ce qui ne fait pas de nous, forcément, des gens toujours extrêmement croyants ou pratiquants. Vous avez des tas de gens qui chantent la messe et qui ne croient même pas en Dieu. Et donc, tous les groupes qui ont commencé par apprendre cette tradition à laquelle on avait accès, qui était partie sacrée, partie profane. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a voulu essayer de faire de la création et de tenter le prolongement de cette mémoire orale, naturellement, on a créé des choses en Corse et puis des choses en latin, c'est-à-dire dans le domaine de la liturgie latine classique, quoi.
Alors, ces chants ruraux qui sont en Corse, dans quelle Corse sont-ils ?
Alors, c'est une langue qui est extrêmement riche, c'est une langue qui est assez complexe à analyser pour plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, selon que vous soyez originaire de Chinarca ou de la pointe du Cap Corse, vous parlez une langue qui n'est pas exactement la même, parce qu'il y a des règles de prononciation qui sont différentes, etc., etc. Et souvent, ça a donné naissance à une langue, si vous voulez, qui est une langue qui se situe entre l'italien, le latin, le corse. Donc, elle est très différente encore de la langue quotidienne parlée dans les villes et les villages. Donc, c'est une langue, cette langue des chants profanes, lorsque vous chantez un terzet, ou lorsque vous chantez un madrigal, et lorsque vous chantez « Quando ero pecorti », etc., etc., il y a, quelquefois on entend la langue usuelle très clairement, et puis quelquefois on entend une langue, d'ailleurs les auditeurs quelquefois viennent nous dire « mais on a compris quelque chose, c'est quoi ? C'est de l'italien, on dirait, ça ressemble à des dialectes italiens autres que la langue officielle italienne ». Effectivement, à partir des années 70, les chants qui sont créés sont souvent créés dans la langue courante, mais il y a quand même une recherche littéraire, je dirais, un peu plus poussée, c'est-à-dire que les chants traditionnels, quelquefois, ils sont dans une langue qui est plus directe, plus accessible, alors qu'à partir des années 70, il y a eu des gens qui se sont intéressés à la langue et qui ont développé une littérature. Et de fait, on a certains chants qui sont devenus peut-être plus littéraires, plus soignés, mieux écrits, sans doute.
Avec des chants, j'imagine, dont certains étaient très anciens, difficiles à dater.
Écoutez, en fait, on n'a jamais pu dater les chants. Notamment la paillée, là, qui est... Alors la paillée, là, c'est...
Ah oui, dites-nous un petit peu ce que c'est, voilà. Puisque c'est un mot clé, quand même, du répertoire polyphonique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la paillée, là, c'est une chose très... C'est en même temps très simple et très compliqué. La paillée, là, c'est une façon que l'on a de chanter en polyphonie, à trois voix. Bon. Mais contrairement, si vous voulez, à un chant qui a... sa musique et ses paroles, la paillée, là, c'est un air qui est polyphonique, que l'on connaît, qui est originaire de tel village, telle micro-région, telle vallée, et dans cette micro-région, ce village, cette vallée, on chante tous de la même façon. On chante cet air-là, en polyphonie, sur lequel on peut chanter toutes les paroles que l'on veut, dès lors qu'il s'agit de vers octosyllabiques groupés deux à deux. Voilà.
Alors justement, puisque vous parlez de cette façon de chanter, est-ce qu'il y a un rapport intime entre ça et la structure même phonologique du corse ? Absolument. Est-ce que vous utilisez la langue pour ornementer d'une certaine façon ?
Absolument, absolument. Et ça, on le dit d'ailleurs, on a créé une sorte de rencontre avec le public où on explique un certain nombre de choses sur l'évolution de notre musique, celle d'Avilette, mais celle de la musique corse depuis 40 ans. Et on dit une chose qui est, je pense, qui est importante pour bien comprendre. C'est que quand vous entendez une paillée, là, il vous est impossible, je dirais, de déterminer une pulsation rythmique récurrente. C'est-à-dire que la paillée, là, est un chant qui semble totalement libre de toute contrainte rythmique. Et pourtant, il y a un rythme qui est précis, même s'il y a des ornements, même si chacun improvise, il y a un rythme, et le rythme, c'est celui de la diction, c'est celui de la langue, c'est celle du verbe, c'est celle de la prosodie, c'est celle qui fait que on peut, dans le chant, développer telle syllabe, parce que c'est conforme, je dirais, à notre prononciation. En revanche, telle autre, on sait qu'elle sera courte, parce que c'est notre façon de prononcer.
Eh bien, Jean-Claude Acquaviva, puisqu'on a la chance que vous nous en ayez chanté une spécialement pour nous, je vous propose qu'on l'écoute là maintenant. Alors, comment ce chant est-ce qu'il se réalisait ? À l'église, on sait bien, c'est pendant les offices, c'est de la musique sacrée. Mais pour la musique profane, justement, ces chants ruraux, ces chants souvent de bergers, de gens qui travaillent seuls, qui sont seuls une grande partie de leur vie, ils se retrouvent, chants masculins donc, ils se retrouvent où et comment ? Traditionnellement, avant que ça soit à Villette, comment ces chants étaient-ils chantés ? Par qui et dans quelles circonstances ?
Alors, pour l'essentiel, ce sont des chants qui étaient interprétés, je vous le disais tout à l'heure, par des fratries, au sein de fratries, ou alors qui étaient interprétés par des gens qui se connaissaient bien, qui travaillaient ensemble la terre, qui faisaient leur charcuterie ensemble, qui tondaient leurs animaux ensemble, etc., etc. Alors, ces chants étaient interprétés, effectivement, en dehors du chant sacré qui était, lui, interprété dans les églises, les oratoires, les confréries. Le chant profane, lui, il était interprété pour l'essentiel à l'occasion de travaux de la terre. Hein. Il pouvait être interprété aussi dans le cadre de fêtes villageoises, de fêtes patronales, de mariages, de sérénades que l'on portait lorsqu'il devait y avoir un mariage, etc. etc. Donc, c'était des chants qui, clairement, à mon avis, étaient clairement ceux du travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on retrouve et qui ont trait au travail et qui, d'ailleurs, il y a des chants particuliers, par exemple à la tribière, quand on fait tourner le bœuf sur l'air pour le battage du blé. Hein, donc, il y a des choses très particulières qui sont chantées à ce moment-là. Il y a des choses qui sont chantées particulièrement entre paysans qui font les vendanges ou qui récoltent ensemble, etc. Donc, je veux dire, c'est vraiment à cette occasion que ça se faisait. Après, ça se prolongeait fatalement dans les maisons, dans les bars, dans les endroits où les gens avaient l'habitude de vivre ensemble. Et c'est vrai que moi j'ai un souvenir. J'ai 53 ans, donc ça remonte pas très loin. Mais dans mon enfance, je me souviens qu'on vivait tous dehors et que on était aussi sacré. Il y avait un lien social extrêmement puissant qui faisait qu'on était, qu'en étant l'enfant de un tel, j'étais l'enfant de tout le village. Et ici, comme on chantait, ben on pouvait chanter n'importe où. On pouvait chanter sur la place, on pouvait chanter au lavoir, on pouvait chanter devant les maisons. Il suffisait que des gens qui se trouvent sachent chanter et ils se mettaient à chanter en polyphonie ensemble.
Alors, puisqu'on parle de polyphonie, dites-nous un petit peu sur quoi ça repose. Dans ce groupe à Filette, vous êtes 6 chanteurs. Bien sûr, il n'y a pas 6 voix dans la polyphonie. Il y en a combien ?
Alors, dans la polyphonie traditionnelle, il y a 3 voix. Après, nous, comme je vous le disais au début de cet entretien, nous avons chacun a ouvert sa voix. Nous avons développé une polyphonie, je dirais, qui est une proposition polyphonique, qui est celle, encore une fois, celle d'un Villette. C'est pour ça que c'est toujours difficile quand on est issu d'une tradition, je dirais. C'est toujours compliqué, si vous voulez, de faire des choses différentes de ce que vous avez fait. Parce que, soit il peut y avoir confusion, c'est-à-dire que quelqu'un qui entendrait aujourd'hui un chant d'un Villette, il pourrait dire « Ah, ça c'est du chant traditionnel ». Mais parmi les chants qu'on vous a interprétés, il y a des choses qui n'ont plus grand chose à voir avec le chant traditionnel. C'est une polyphonie, elle a gardé plein d'éléments de la musique traditionnelle, mais elle s'en est radicalement éloignée. Voilà, donc aujourd'hui, nous, notre polyphonie, elle peut être à 3 voix, elle peut être à 4 voix, elle peut être à 5 voix, elle peut être à 6 voix des fois. C'est une polyphonie qui peut être totalement orale, c'est-à-dire qu'il n'a fait l'objet d'aucune écriture. C'est une polyphonie qui peut être complètement écrite aussi. Donc, nous avons ouvert en quelque sorte un sillon sans prétention aucune, sans dire la tradition corse, c'est ça, sans même dire la tradition corse de demain, c'est ça. Ça, ça n'est pas à nous que ça appartient, en quelque sorte. Nous avons l'envie, le besoin, je dirais, de proposer des choses. Mais nous avons toujours tenu, par rapport à la tradition, un discours qui est très clair. C'est-à-dire que quand beaucoup de gens considèrent que la tradition est une chose immuable, pour nous, ils se trompent. Bon, il y a des polyphonies corses aujourd'hui qui sont très variées, mais est-ce que cette polyphonie aujourd'hui se développe ? Elle se développe pas tant que ça. Voilà, pas tant que ça. Oui, elle s'est développée. Alors, le seul endroit où on peut considérer qu'elle s'est développée, c'est dans les confréries. Les confréries, ce sont ces organisations laïques, mais qui sont en gros entre le peuple et l'Église. Hein. Ce sont des organisations qui ont en charge l'organisation des fêtes patronales, des grands événements religieux, etc., etc. Mais ce sont des organisations laïques. Et au sein de ces organisations laïques, s'est beaucoup développé l'apprentissage du chant traditionnel sacré. Là, oui, je peux dire qu'il y a véritablement un travail qui est fait. Il y a beaucoup de confréries qui chantent, beaucoup de confrères qui chantent à droite, à gauche. Il y a même des confréries qui ont été ressuscitées, certaines qui n'existaient plus depuis 250 ans. Bon. En revanche, dans la pratique musicale courante, je constate que la polyphonie en Corse est de moins en moins pratiquée. Et je dis la polyphonie, je ne dis pas seulement la polyphonie traditionnelle. Nous, en polyphonie, on est pratiquement un des seuls groupes, j'irais, à avoir une proposition polyphonique, qui est une polyphonie de création, mais une polyphonie de création a cappella. Il y en a peu ou pas. Et je pense que c'est dommage.
Eh ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Acquaviva. Merci. On va vous réécouter avec vos 5 camarades à Villette.
Merci.
L'oceanum mi mene e me.
Lucie Bouteloup et moi, nous avons quitté à regret les chanteurs d'Affiletta. Nous avons passé le col de Vizzavone, on est arrivé à Ajaccio, rendez-vous avec Jérôme Ferrari, un romancier qui, bien souvent, utilise la Corse comme décor et comme origine, d'ailleurs, de ses fictions. Mais il est aussi traducteur du Corse vers le français. Alors, j'ai commencé par lui demander comment il avait appris le Corse.
Il se trouve que mes deux parents sont corses, mais je suis né à Paris, et mon père étant issu d'un milieu légèrement plus bourgeois que ma mère, il ne parlait pas corse, par volonté de ses parents de ne pas lui transmettre ce qui était perçu comme un dialecte de berger. Ma mère le parlait. Et du coup, je ne l'ai pas appris quand j'étais petit. Et moi, j'y suis venu au Corse par la musique, en écoutant les groupes et en me faisant traduire les chansons par ma mère. Et en travaillant tout seul, en quelque sorte. Hein. Et c'est comme ça que j'y suis venu. Mais ça a été une grosse obsession de mon adolescence d'arriver à le parler. Et ça a été assez compliqué d'arriver aussi à me lancer dans des dialogues un peu naturels. Quand je suis revenu m'installer en Corse, j'avais extrêmement honte de ma manière de parler. Quand j'étais petit, mais c'est des très très vieux souvenirs, et donc avant d'aller à l'école, je restais avec mon grand-père, qui lui me parlait corse, mais pas assez longtemps. Donc je savais jouer aux cartes en Corse, quand j'avais 4 ou 5 ans.
Ah, vous jouiez à quoi? À la scope?
À la scope, hein. Il m'avait appris à jouer à la scope, oui. Hein, oui, avant l'école.
Et donc vous compreniez, vous aviez quand même une sorte de pratique passive de la langue, plus ou moins?
Oui, j'avais une pratique passive de la langue quand même. J'aurais pas pu apprendre aussi. J'ai jamais atteint un niveau vraiment satisfaisant pour moi. Mais je l'ai. Mais enfin, en faisant les choses tout seul à partir d'un corpus de texte assez limité, je pense que j'aurais jamais réussi à parler correctement si j'avais pas eu cette immersion passive depuis toujours.
Donc vous parlez, mais vous écrivez aussi. Ou en tout cas, vous traduisez du corse. Alors, dites-nous un petit peu comment ça a commencé, cette affaire.
Alors, d'abord, dire que je suis traducteur du corse, c'est à la fois vrai et c'est un peu exagéré, parce que j'ai traduit en tout et pour tout un seul auteur, moi, qui est Marco Biancarelli, avec lequel j'ai commencé à écrire. En fait, on était tous les deux professeurs au lycée de Porto Vecchio et on avait 28 ou et on s'est rendu compte qu'on écrivait tous les deux et on s'est passé nos textes. En plus, on s'est rendu compte qu'il n'est pas si étonnant que ça qu'on écrivait sur à peu près les mêmes problématiques et dans la même avec la même perspective. Et lui, il écrivait en corse et moi en français. Et il avait écrit une nouvelle qui m'avait fait vraiment hurler de rire, et je l'ai juste traduite en français pour voir ce que ça pouvait donner et lui faire une surprise. Et on a décidé de traduire tout le recueil, qui est finalement paru en 2000 dans une édition bilingue, avec les nouvelles en corse d'un côté et en français de l'autre.
Donc, au départ, vous l'avez traduit comme un geste amical et comme une bonne surprise pour votre copain, quoi.
En fait, le texte était tellement contemporain et différent de ce qui se faisait avant que je me suis dit aussi qu'il fallait traduire ça, ce qui est une idée qui semble basique pour un traducteur, hein, mais qui ici l'était pas, hein, comme si la langue était du chinois ou du russe au départ. Et donc ne pas faire dans la traduction le genre de petit clin d'œil qui donne un aspect folklorique, laisser des mots.
Vous vouliez éviter le pittoresque, quoi.
Voilà. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucun aspect régional dans ma traduction, et il était content parce que c'était comme ça qu'il voyait les choses aussi.
Donc c'est pas une traduction qui a l'accent, quoi.
Ah non, mais c'est une traduction qui a l'accent. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me déplaît fortement. J'ai traduit un de ses romans qui s'appelle 51 Pégase, là j'ai traduit entièrement. Et puis pour un roman qui s'appelle Mourtour, j'en ai traduit qu'une petite partie avec Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Roset, qui Jean-François fait vraiment le gros du travail. Et c'est notre traduction française qui a été publiée par Actes Sud, et ça on était tous très très heureux, parce que c'était la première fois qu'une maison nationale publiait un texte français traduit du corse, et traitait donc le corse avec les honneurs qu'on doit à une langue étrangère.
Alors, paradoxe quand même, parce que dans la traduction française, ça continue à s'appeler Mourtariou. Ça veut dire le glas.
Oui. Alors, le problème était que ça, c'est une décision d'Actes Sud. Moi, j'étais pas tellement d'accord au départ.
Ça paraît contredire ce que vous venez de nous dire, justement.
Ouais. Et bon, sauf que c'est pas quelque chose, c'est pas Mortorio, c'est pas Figatelli ou Colomba. Vous voyez, il y a pas sa palle et les référents.
Oui.
Mais il aurait fallu changer complètement le titre parce qu'il y a un jeu de mots. Mortorio veut dire le glas, mais c'est aussi le nom qu'on donnait au télégramme qu'on portait aux familles pendant la guerre de 14 pour annoncer le décès d'un proche. Et il y a bien sûr les deux sens. Et si je me rappelle bien, c'est à moi qui ai eu la chance extrême d'avoir à traduire le passage du texte dans lequel le mot est utilisé dans les deux sens. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir correctement en français pour que glas et télégramme puissent vouloir dire la même chose. Mais voilà.
C'est difficile de vous faire parler à la place de votre ami, mais quand même, à votre avis, pourquoi ne traduit-il pas lui-même ? Je sais bien qu'il y a eu au départ ce geste, cette fraternité entre vous, cette amitié, le fait que vous connaissez son écriture depuis très longtemps, vous continuez à traduire, lui n'a jamais souhaité le faire. Il y a certains textes d'ailleurs où son nom apparaît parmi les traducteurs, donc j'imagine qu'il y a quand même un travail, un aller-retour entre vous, mais il ne traduit pas ses livres.
Mais je peux exceptionnellement vous répondre à sa place parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé entre nous et je sais pourquoi il ne le fait pas et je le sais et je le comprends. Il vient d'écrire le texte, il n'a pas envie, je pense, de s'y replonger. Et plus profondément, je pense qu'il ne pourrait pas se contenter de traduire. Il a peur de se mettre à réécrire.
À écrire un nouveau texte.
À réécrire. Et donc, Marco, il a une langue qui manie beaucoup de registres différents. Donc, c'est très intéressant. Dans Mortorio, c'est évident. Il y a des passages vraiment de très haute tenue littéraire, notamment tous les passages sur la guerre de 14, des passages qui sont beaucoup plus dans un langage parlé. Mais les ressources du Corse pour passer d'un registre à l'autre ne sont pas évidemment celles du français. Elles sont pas, c'est pas un calque. Et il faut donc trouver des ressources en français pour exprimer les deux choses. Mais en lisant trois lignes, je sais que c'est Marco qui les a écrites.
Parce qu'il a une musique à lui.
Oui,
il a un style. Même si il saute d'un registre à l'autre.
Exactement. Et chose qui m'impressionne encore plus chez lui, c'est qu'il a aussi une musique à lui en français. Et les deux derniers romans qu'il a écrits sont en français, directement. Et c'est pas la même chose qu'en Corse. Il a deux styles différents en fonction des langues dans lesquelles il écrit.
La langue induit le style, en tout cas en ce qui le concerne, vous avez l'impression ?
La langue induit une adaptation du style. Je pense qu'il a un sens très intime du corse et un sens très intime du français.
Et pour vous qui êtes un écrivain de langue française, est-ce que vous avez l'impression que c'est un travail un petit peu semblable quand vous traduisez du corse ? Vous traduisez bien sûr un texte qui existe déjà. Votre rapport à la langue, est-ce qu'il est très différent de celui que vous avez quand vous écrivez vos romans ?
Mais oui. Et alors, je pense que dans un sens, c'est de manière assez paradoxale, c'est plus réflexif. Et j'en réfléchis plus en traduisant. Moi, je réfléchis plus en traduisant qu'en écrivant parce que je dois être le porte-parole de quelqu'un qui est pas
oui,
moi.
Quand vous écrivez, vous êtes le patron.
Voilà.
Alors que quand vous traduisez, vous travaillez pour quelqu'un d'une certaine
façon,
ou vous travaillez pour un texte existant.
Exactement. Et j'ai toujours adoré ça.
Merci à Filetta, merci Jean-Claude Acquaviva, merci Jérôme Ferrari, au revoir la Corse jusqu'à la prochaine fois et merci bien sûr à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette série d'émissions autour de la langue corse, notamment la DGLF-LF. Pour la danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Marjorie Bertin, Yvan Amar.